De quoi s'agit-il?
C'est tout ce qu'il y a de simple, voyons.
Enfin, qui êtes-vous?
Répondez.
Je ne sais pas pourquoi vous nous faites perdre notre temps.
C'est vraiment incompréhensible.
Alors j'écoute.
Merci.
Eh ben, je vous écoute, parlez, allez.
Allez-vous me répondre, oui ou non?
Cinérama.
Vous en êtes sûr?
J'en suis certain.
Ah, un petit mot encore.
Cinérama.
Que faites-vous maintenant?
Actualité cinéma.
Ah bah voyez-vous ça.
Et tout le reste.
Je ne crains pas d'affirmer que notre émission est une entreprise de salubrité publique.
C'est délicieux. Nous avons tous nos petits fantasmes.
Je sais que vous êtes très occupés, aussi nous ne vous retiendrons pas longtemps.
Je serais ravi de vous croire.
Bonjour et bienvenue dans la deuxième émission spéciale confinement qui contraint l'équipe de Cinérama à la séparation. Alors ce n'est pas pour cela que nous ne pourrons vous offrir eh bien, notre programme hebdomadaire. Chaque intervenant de l'émission trouvera un moyen de collaborer à cette émission qui va se focaliser sur les films à l'affiche sur Canal+. Alors pourquoi cela? Eh bien car la chaîne cryptée a décidé pour la première fois de son histoire, me semble-t-il, de diffuser ses programmes en clair et ce jusqu'au 31 mars. Des fois que vous ayez eu envie de prendre un livre, Canal+, vous faites l'œil. On a choisi 4 films qui sont diffusés jusqu'à la fin du mois et dont on avait parlé dans l'émission le jour de leur sortie. Et on écoutera même eh bien, 2 réalisateurs qu'on avait pu rencontrer, preuve qu'on est dans les bons coups. En fin d'émission, Manu vous parlera de 2 films autour du huis clos, Demon et Bloody Bird. On débute avec une chronique du film Le Nouveau, sorti dans les salles en 2015 et diffusé donc en clair sur Canal+, jusqu'à fin mars.
J'entends beaucoup parler de votre travail.
Cinérama.
On s'en passera aisément.
Alors, en classe de 4e, il y a ceux qui sont encore bloqués au stade de l'enfance et ceux déjà résolument entrés dans l'adolescence. Et il y a surtout 2 catégories, les populaires et les losers. En classe de 4e, on découvre la vie, l'amitié, l'amour et la dure loi de la popularité surtout, selon laquelle un simple choix de vêtements ou de fréquentation peut vous renvoyer au rang des parias. Et c'est surtout de cela dont parle Le Nouveau. Benoît arrive dans un nouveau collège et ne sait pas trop comment s'intégrer. Il passe son temps avec Joshua, un garçon étrange et un peu répugnant, et une jolie Suédoise nouvelle elle aussi. Avec l'aide de son oncle, il décide de tout faire pour devenir populaire. Alors contrairement à ce que laisse croire la bande-annonce, le personnage de l'oncle, joué par Max Boublil, n'est pas si présent que cela. Apparemment ami avec le réalisateur du film, Rudy Rosenberg, Max Boublil, qui a probablement largement contribué au financement du film, a quand même un personnage peu important. Alors précisons que comme d'habitude il joue le rôle d'un branleur abruti, que comme d'habitude il le fait très bien. Mais le film est en réalité vraiment immergé dans l'univers de la préadolescence et laisse de côté les personnages adultes. Filmé au plus près des jeunes comédiens, Le Nouveau est assez surprenant de justesse dans sa cruauté, dans son humour, et la direction d'acteur est vraiment remarquable, puisque tous les ados jouent ici pour la première fois et sont tous très crédible. Alors sans doute plus adressé aux jeunes adultes, pour qui le souvenir de cette époque est encore présent, Le Nouveau se veut également résolument intemporel. Difficile de situer l'époque à laquelle il se déroule, car les vêtements portés ou les musiques que l'on entend brouillent volontairement les pistes. Ce n'est pas un film qui parle de la nouvelle génération d'ados et des problématiques de 2015, mais plus des thèmes universels liés à l'adolescence. Et ce parti pris est plutôt une bonne chose. Moi j'ai trouvé que c'était sensible, que c'était drôle, que c'était donc vraiment très bien joué. Et que globalement, c'est une bonne surprise. Voilà, j'en avais pas attendu grand-chose, vraiment, j'y allais pas en étant très convaincue. Et j'ai vraiment trouvé que c'était une bonne surprise. Et puis c'est court, et on ne dira jamais assez, refaites des films courts, c'est bien, les films de 1h20.
Nous avions eu l'occasion de rencontrer Rudy Rosenberg, le réalisateur, et une partie de l'équipe du film, quelques semaines avant la sortie du long-métrage. Dans les salles, celui-ci a réuni 388 000 spectateurs, ce qui est peu pour une comédie, mais bien pour un premier film. Alors tendez l'oreille, à la fin de l'interview, les ados balancent des infos croustillantes sur le tournage.
Pourquoi tu ramènes pas des chocolats demain au collège et puis t'engages la conversation?
Mais tu m'as pris pour un bouffon quoi?
Quelqu'un a faim?
Mon frère, c'est quoi le problème là?
Ta gueule.
Hein, tu sais, il y a des gens, ils sont immoraux, là, ils réfléchissent pas à ce qu'ils font.
Moi j'avais envie de raconter l'histoire d'un gamin qui rentre dans un collège et qui, dans un premier temps, va suivre le troupeau, c'est-à-dire faire un peu comme tout le monde, rejeter ceux qui sont rejetés, il a envie d'être ami avec ceux qui sont populaires, comme tout le monde, parce qu'il a peut-être lui aussi peur d'être rejeté, et puis, petit à petit, il va, grâce à cette bande de copains, qui sont eux-mêmes tous exclus, tous différents, tous un peu rejetés, il va apprendre que voilà, qu'on n'a pas besoin d'être tout en haut de la chaîne alimentaire pour se sentir fort, quoi, que l'important c'est d'être avec des gens qui vous font sentir que vous êtes important pour eux. Et puis ensemble, qu'ils vont complètement se libérer, oublier le regard des autres et s'éclater voilà, en gardant un pied dans l'enfance, comme je vous disais. Quoi.
Ça fait une semaine que t'es en cours, t'as dû te faire des copains quand même, non?
Faut pas rester tout seul quand même dans son coin, c'est pas bien.
Il n'y a jamais de verre propre dans cette maison.
Tu veux rien voir?
Non, merci.
T'as envie d'être populaire?
Bah ouais.
On va faire une énorme teuf, d'accord?
Ouais.
Tous les petits gamins, je veux qu'ils soient bourrés, j'en ai rien à foutre. Tu dis bien à tout le monde qu'il y a un DJ.
T'es DJ?
Ouais, j'étais DJ pendant 8 ans. Ouais.
J'avais envie de raconter des souvenirs d'enfance, des souvenirs d'adolescence. Déjà parce que j'ai plein de bons souvenirs et plein d'anecdotes que j'avais envie de raconter, parce que j'avais envie de me reconnecter à cette période, parce que j'ai... C'est plein de souvenirs d'amitié, de rigolade, d'euphorie, toutes les choses que tout le monde a vécues à cet âge-là, hein, en fait. Hein. Puis en même temps, les mauvais souvenirs aussi, revenir dessus avec de la comédie, de l'humour, pour essayer de, voilà, de dédramatiser cette période aussi, qui pour certains ont été un peu plus difficile. Et puis, le propos du film, c'était de parler du sujet de la popularité, qui est dans les cours de collège aujourd'hui une préoccupation très importante des élèves, mais qui déjà, à mon époque, moi, c'était déjà le cas. Et puis, je trouve que ça concerne aussi les adultes, quoi, parce que la popularité, c'est vraiment un... Enfin, nous aussi, on a tendance à être attiré par des gens juste parce qu'ils sont populaires, quitte à mettre de côté des gens qui comptent vraiment pour nous. Donc voilà, pour moi, c'était un sujet qui était universel. Et je m'étais dit que ça allait pouvoir enfin toucher un peu tout le monde, quoi.
Non mais là pour le coup tu vas vraiment trop la contente. Je n'aime pas être une nouvelle.
Moi aussi j'aime pas être nulle.
Johanna, tu fais quoi? Tu vas pas t'asseoir? Assois-toi avec nous.
Je voudrais faire semblant de t'intéresser à une autre fille.
Oui, mais comment? Je vais faire quoi?
Je file un rendez-vous et tu te pointes avec une autre fille. Les meufs, quand tu les rends jalouses, elles deviennent folles.
Si vous voulez, on peut demander à ma sœur.
Elle est comment, ta sœur?
Elle a des gros nichons, bien fermes.
Comment tu sais qu'ils sont fermes?
Je les ai touchés.
C'est vrai que la classe du quatrième, c'est assez particulier parce qu'il y a cette espèce de clivage entre ceux qui ont encore un pied dans l'enfance, qui sont encore en préadolescence, et ceux qui veulent absolument ressembler à des adultes. Et dans la bande de Benoît, enfin la bande qui est la naissance, enfin c'est la naissance d'une bande de copains, hein, dans cette bande-là, ils vont, eux, ils refusent de ressembler à des adultes, contrairement aux autres. Quoi. Eux, ça les intéresse pas. Ils veulent garder un pied dans l'enfance et pourquoi pas même le garder toute leur vie. Quoi, hein. L'idée, c'est que les gens ressortent avec la banane et tout ce qu'on a vécu quand on était ado, ce qui pouvait sembler insurmontable sur le moment, avec le recul, ça devienne drôle, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai mis beaucoup d'humour et de légèreté, quoi. J'avais pas envie qu'on ressorte avec le bad. C'est le mélange doux-amer, quoi, que je trouve intéressant, quoi.
C'est une meuf, elle fait exprès de jamais me parler. Est-ce qu'elle pourrait... ça se peut qu'elle utilise cette technique-là pour me rendre jaloux parce qu'en fait, elle est amoureuse de moi?
Non.
Voilà, c'était donc le réalisateur du film Le Nouveau, Rudy Rosenberg. Et lors de cette conférence de presse où nous étions tous les deux, Marine, il y avait aussi eh bien, un des enfants, le dernier qu'on entend, là, oui. qui joue l'espèce d'affreux. Enfin, voilà.
Oui, le mec qui, est pas, mais, oui. Qui n'est pas très très populaire, plutôt.
Et lui, alors, il était plutôt timide au départ, mais il a balancé des trucs sur Max Lubin. On écoute.
Il est fou. Il est malade. Il vient sur le tournage. Je sais pas si on a le droit de dire, mais il vient sur le tournage.
Ça, c'est
Non, mais genre alcoolisé. Il était dans des.
C'est pour être baudé, quoi.
Non, mais il venait dans des états. Je sais pas. Pas lui. Deuxième état. En état secondaire, je sais pas. C'était des trucs chelous. Il s'est énervé parce que Rudy l'a pas laissé se faire la maquilleuse. Il laisse faire la maquilleuse.
Mais j'ai rien fait du tout, c'est pas vrai.
C'est
faux, hein, dans ce qui est énervé.
Oh.
Mettez bien les guillemets parce que.
Voilà quoi.
Non, tout ça est faux. Il s'est très bien entendu avec les enfants et il était très complice avec eux. Mais si. Ils sont formidables. Les enfants sont formidables.
Les enfants, les ados n'ont pas de filtre et ce sont ceux du film Le Nouveau, un film de Rudy Rosenberg que nous écoutions à l'instant. Le long métrage est diffusé en clair sur Canal+ avant le 31 mars. Après, eh bien, ce sera en DVD ou VOD. Autre film diffusé sur la chaîne décryptée provisoirement, Rebelle, un film moins réussi. Hein. Marine nous en parlait à sa sortie.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations?
Cinérama.
On va regarder ça.
Question diplôme. Je vois un brevet des collèges, une formation en coiffure, question expérience professionnelle, Miss Nord-Pas-de-Calais.
Et oui, Sandra, interprétée par Cécile de France, est une ancienne Miss Nord-Pas-de-Calais qui n'a malheureusement donc jamais réussi sa reconversion professionnelle et se voit donc contrainte de revenir vivre dans la caravane de sa mère. Elle se voit également contrainte de décrocher un travail à l'usine de conserve de poissons locale. Et dès les premiers jours, eh bien, les ennuis commencent. Harcelée par son patron, elle le tue accidentellement et doit trouver un moyen de se débarrasser du corps, aidée de deux autres ouvrières, et les ennuis vont naturellement s'empirer.
Je viens pour la X.
Maman, pourquoi on achète pas la mini?
Non, on n'a pas les moyens.
Bah si t'achetais moins de drogue aussi.
Tu vas dégager, oui.
Oh. Et nous, ah, c'est nous qu'on n'a pas payé le loyer, c'est nous qui t'en tort. Tu peux comprendre ça?
Jean-Mi a disparu avec le pognon des Belges.
Pourquoi tu leur as pas dit?
T'es con ou quoi? Tu veux qu'ils fassent des frites avec ma bite?
C'est quoi tout ce fric?
C'est rien, Dylan, va te recoucher.
Faut vraiment te calmer, hein.
Dis donc!
Alors, on va pas y aller par quatre chemins. Le film est un ratage. Alors, autant il y a des ratages sympathiques, des films devant lesquels on est sincèrement peiné pour le réalisateur. Mais dans le cas de Rebelle, je suis juste sortie de la salle très énervée et je vais modestement essayer de résumer pourquoi c'est un ratage. Alors, premièrement, il faut arrêter de citer Tarantino. Surtout lorsque l'on joue davantage dans la cour de Fabio Antoniente. L'histoire du cinéma comporte des milliers de réalisateurs. Je m'adresse aux cinéastes, arrêtez d'avoir comme référence Quentin Tarantino. On en a un, c'est largement suffisant. D'autant que lorsque vous voulez rendre hommage à son cinéma, dans 9 cas sur 10, vous le faites très mal. Deuxième point, arrêtez de prendre des comédiennes pour leur faire jouer des personnages qu'on leur connaît déjà, comme Audrey Lamy ou Yolande Moreau, ici, qui jouent respectivement la petite délurée et la vieille lunaire, et qui en deviennent des caricatures d'elles-mêmes. Alors en revanche, Cécile de France, en Miss Nord-Pas-de-Calais déchue justement à contre-emploi, réussit à créer un personnage haut en couleur, à la fois antipathique, attachant, complexe. C'est une leçon de jeu, et dans pareil contexte, c'était pas gagné. Et pour terminer, troisième point, eh bien, on ne fait pas une comédie féministe en faisant de l'humour avec des femmes qui se prennent des claques, ce qui arrive environ 10 fois dans le film quand même. Hein. En plus, les coups sont très mal faits et je ne sais pas si c'est volontaire histoire de rendre les violences encore plus drôles. Mais donc, ça prouve quand même que même les effets spéciaux, le peu d'effets spéciaux qu'il y a dans le film, sont mal faits. Bref, Rebelle, c'était une comédie qui semblait rock'n'roll, déjantée et suffisamment mal élevée sur le papier pour être excitante. À l'arrivée, ça donne un film un peu rance, trop long et bancal, où pas grand-chose ne fonctionne.
Sauf le jeu de Cécile de France.
Sauf
quand
le
même.
Jeu de Cécile ouais. de France.
Oh, c'est vrai que c'est maigre.
This is Cinérama.
C'était une chronique de Rebelle, sortie il y a un an et sur Canal+, visible en clair avant le 31 mars. Troisième film repêché des archives de Cinérama, également de passage à la télévision en cette période de confinement. Une intime conviction, c'est Marine qui avait chroniqué le film au moment de sa sortie. Et puis tiens, rencontrer le réalisateur Antoine Rimbaud.
Qui êtes-vous?
Cinérama.
J'ai pas très bien saisi.
Chronique, invité et nouvelle du 7e art.
Tu comprends ce que je veux dire?
Une intime conviction, c'est ce que ressent Nora, interprétée par Marina Foïs après le procès de Jacques Viguier. L'intime conviction que cet homme accusé de meurtre, du meurtre de sa femme, n'est en réalité pas coupable dans cette affaire improbable où il n'y a ni cadavre, ni mobile, et pour laquelle elle va remuer ciel et terre, allant jusqu'à convaincre l'avocat Éric Dupond-Moretti de reprendre ce dossier. Alors j'ai eu l'occasion de découvrir ce film il y a quelques mois, lors d'une avant-première. Je suis un peu surprise de découvrir des critiques extrêmement élogieuses au moment de sa sortie, car pour moi il s'agit d'un film de procès standard. Alors c'est vrai qu'on n'est pas habitué à faire ça en France. Comprenez par là qu'il remplit bien ce qu'on attend de lui, mais bon, sans grande fulgurance stylistique, l'intérêt principal du film réside dans sa genèse. C'est le réalisateur Karim Dridi, ami et co-scénariste de Antoine Rimbaud, qui lui a parlé du procès Viguier il y a quelques années, alors que ce procès est encore en cours. Le jeune scénariste s'est totalement passionné pour cette affaire, assistant à toutes les audiences et au point de décider, eh bien, du coup, d'en faire un film. Film qui lui a pris, donc, il me semble, une dizaine d'années à mettre en place. Et le personnage de Nora, eh bien, est donc une sorte de prolongement du réalisateur, de son acharnement à découvrir la vérité au sujet de ce qui fut l'une des plus étranges affaires criminelles de ces dernières années. Alors, si vous ne vous rappelez pas de cette affaire, eh bien, je vous invite à ne pas vous renseigner avant, car le film est pensé comme un thriller avec un vrai suspense. Ça vaut le coup, vraiment, de rester dans l'ignorance pour apprécier ce film. Film qui, comme souvent, eh bien, les films de procès, mis sur une grande sobriété de l'image et sur une interprétation intense. Olivier Gourmet endosse ici la robe d'Éric Dupond-Moretti et en le voyant pendant 2 heures. Si habité, on se dit que ce rôle était vraiment comme une évidence pour lui depuis toujours. Un peu comme Jérémy Régnier quand il a joué Claude François. Je me suis dit, il était fait pour jouer ce rôle. Mais ce n'est pas Olivier Gourmet qu'on va écouter tout de suite, c'est le réalisateur, donc Antoine Rimbaud, qui nous parle eh bien, voilà, de la genèse un petit peu de ce projet, de ce film.
Maître Dupond-Moretti,
c'est moi qui vous ai contacté à propos de l'affaire Viguier.
Je viens vous proposer de reprendre l'affaire.
Si je prends une affaire, je commence par lire le dossier.
Ce procès est quand même très singulier, c'est-à-dire qu'il s'est passé au cours du deuxième procès des choses assez rares dans les annales de la justice française. Il y a un autre que l'accusé qui s'est retrouvé tout d'un coup dans les projecteurs sous le feu de la suspicion. Et il y a eu un basculement dans ce procès qui tout d'un coup m'a fait envisager de raconter ça, parce que ce qui m'intéresse, c'est d'abord le doute. Et qu'est-ce que c'est que la justice? Et cette affaire est pleine de ça, voilà, de convictions au pluriel et de doutes.
Je vous parle d'une erreur judiciaire, là.
Monsieur Viguier, vous avez mis 3 jours à déclarer la disparition de votre femme.
En vrai, ils savent même pas si elle est morte, hein. Si ça se trouve, elle est partie. Il n'y a pas de cadavre, il n'y a pas de mobile.
Et vous êtes qui, alors?
Je suis une amie de la famille.
Effectivement, on a un peu pensé à Erin Brockovich. C'était très important pour moi que ce personnage, à travers qui on va vivre cette histoire, soit dans une démarche citoyenne, soit comme un poisson hors de l'eau, soit ni avocate, ni apprenti avocate, ni journaliste, ni voilà, qu'elle soit dans une forme de candeur et d'idéalisme. Et elle va chercher donc cet avocat au début du film, un peu la fleur au fusil, en portant le flambeau de l'erreur judiciaire et de la présomption d'innocence. Et puis de fil en aiguille, elle va rentrer dans une quête impossible de vérité, et puis ça devient un film de contre-enquête, c'est-à-dire qu'elle va mener son enquête dans les coulisses du procès et se forger une intime conviction. Voilà. Et c'est en gros la proposition du film, c'est ça, c'est d'interroger le doute et la justice à travers l'expérience de son intime conviction et de cette emprise de la conviction sur la raison, qui est une espèce d'enfermement, d'aveuglement, et sa quête à elle est en fait un espèce de miroir de... Elle pourrait être juge d'instruction, elle pourrait être enquêteur, elle a ce statut-là, sauf qu'elle est un peu électron libre et qu'elle est un peu borderline et qu'elle va passer comme ça un certain nombre de limites à ne pas franchir.
On dit qu'ils n'ont aucune preuve, mais toi non plus, tu ne peux pas être sûr.
Pourquoi s'est-il débarrassé du matelas sur lequel dormait son épouse?
250 heures d'écoute téléphonique. À vrai dire, je suis emmerdé, j'ai personne qui connaisse l'affaire comme vous.
Voilà, donc oui, c'est un vrai personnage de fiction pour raconter cette affaire. Par contre, de l'affaire, on n'a rien osé inventer, on n'a rien osé toucher. En fait, cette affaire est vraiment complètement incroyable, quoi. On n'oserait pas mettre ça dans un film de fiction. Et du coup, on a eu un rapport obsessionnel à la réalité de ce qui s'est dit aux audiences, de ce qui se dit dans les écoutes téléphoniques, des PV. En fait, toute l'affaire, tout le dossier, vraiment, est intact, quoi. Alors, on a fait évidemment des points de focalisation et des sélections, donc il y a un point de vue, mais on n'a pas osé inventer ni trafiquer quoi que ce soit.
Ils ont retrouvé le sac à main dans la maison, avec les clés de la maison dans le sac à main. On est à peu près sûr qu'il y a préméditation.
Il y a quand même un travail d'écriture de la fiction qui est en gros de réduire et de faire des choix. C'est-à-dire que cette affaire, c'est 10 ans, c'est 2 procès, c'est 3 semaines de procès, rien que le procès du film. Et nous, on a 1h50. Quoi. Donc, et la plaidoirie, c'est 1h, bon, on a 8 minutes. Donc en fait, il y a un travail d'écriture.
Suzy voulait divorcer. Jacques ne l'a pas supporté.
On s'appuie sur des témoignages. Et tout amène à Monsieur Viguier. À la piste conjugale.
Quand on s'assoit sur le banc de la cour d'assises, c'est vertigineux de puissance dramatique, d'émotion, c'est incroyable, quoi. Donc ouais, moi je trouve ça puissant et fascinant, et j'aime en tant que spectateur cette matière-là et ce monde-là, je trouve ça passionnant. Et en fait, on en a fait longtemps en France, c'était plutôt des drames, on appelait ça des drames de prétoire. Alors aujourd'hui c'est un peu poussiéreux et c'est en noir et blanc, quoi, dans notre imaginaire. Et les Américains ont fait beaucoup de thrillers avec une écriture de suspense. Et là le film est plutôt sur ses traces.
Ce mec-là, je vais le harceler, faire en sorte qu'il y ait des rumeurs qui courent. Hein.
Ouais, t'as pas le droit de faire ça.
J'ai pas le droit de faire quoi?
Vous m'avez menti, je peux plus vous faire confiance.
Si je vous l'avais dit, vous m'auriez pas confié les écoutes. Faites-moi confiance une dernière fois.
C'était Antoine Rimbaud, réalisateur d'Une intime conviction. Si nous en parlons maintenant, c'est que celui-ci est diffusé sur Canal+ en clair jusqu'au 31 mars. Et eh bien, si vous n'avez pas l'occasion de le voir à la télévision, vous pouvez au moins prendre un DVD ou le voir en VOD. Dernier film dans le même cas dont nous allons vous parler, c'est Mon inconnu de Hugo Gélin avec François Civil. Marine, encore elle, nous en avait parlé lors de sa sortie.
J'ai des exos pour les meilleurs films qu'on passe en ville.
Cinérama,
parfait. Judicieux, simple et logique.
Depuis hier matin, je suis plongé dans un monde parallèle où toute ma vie a changé. T'es con.
Raphaël et Olivia se rencontrent sur les bancs du lycée, un coup de foudre et 10 ans plus tard, ils sont toujours amoureux, mariés même. Mais Raphaël, encouragé par Olivia qui, elle, a délaissé son talent pour le piano, est devenu un écrivain qui écrit des best-sellers. Sans qu'ils s'en rendent compte, le fossé s'est creusé entre eux et Olivia ne reconnaît plus ce que le succès a fait de son mari. Un jour, Raphaël se réveille dans une réalité alternative où les chemins pris par lui et Olivia sont bien différents. Elle est devenue une pianiste célèbre et lui n'est qu'un simple professeur de littérature, joueur de ping-pong à ses heures perdues.
Faut que tu m'aides à retourner dans ma vie d'avant, Félix. Tu peux faire ça?
Ok.
Bonsoir.
Bonsoir.
Vous saviez que c'était mes fleurs préférées?
Coup de bol, quoi.
Marc, tu viens?
Marc, vous êtes l'agent?
Ouais. Agent et presque mon mari.
Olivia, je peux t'avouer un truc?
Ouais.
Ça fait des années qu'on se connaît. On a été ensemble, en couple, toi et moi. On s'est aimés très fort. On a été mariés. C'est pour ça que je sais tout de toi.
Hugo Gélin réalise avec Mon Inconnu son troisième film. On peut dire que le jeune réalisateur a le nez pour les comédiens. Dans Comme des frères, il donnait l'un de ses premiers rôles à un certain Pierre Niney et relançait la carrière de Mélanie Thierry, depuis nominée au César. Dans Demain, tout commence, il donnait l'un de ses rôles les moins inconsistants à Omar Sy et le film dépassait les 3 millions d'entrées. Si Mon Inconnu est, disons-le tout de suite, une comédie romantique plutôt réussie, même très réussie, c'est en grande partie grâce à son casting aussi. Aux côtés de Joséphine Japy, dont le personnage, c'est vrai, est sans doute le moins écrit, mais qui fait preuve d'une grande fraîcheur et d'un véritable talent comique, on retrouve Benjamin Lavergne, alors sans doute âgé de 10 ans de trop pour le rôle, mais il est tellement drôle en même temps qu'on s'en fout un peu, et surtout donc François Civil. François Civil qui est quand même à l'affiche de 4 films cette année, Le Chant du Loup, film de guerre ambitieux et réussi que j'ai chroniqué ici, Celle que vous croyez avec Juliette Binoche, le prochain film de Clapiche qui va sortir prochainement, et donc Mon Inconnu, film où il est de tous les plans et dans lequel il parvient à être autant à l'aise dans le rire que dans l'émotion, faisant preuve d'une alchimie palpable avec ses partenaires, bien qu'il ait peut-être de sa part, c'est vrai, un zeste de surjeu, mais bon, la comédie réclame cela aussi. Les dialogues écrits par Igor Gottesman, à qui l'on doit Five, participent au rythme très enlevé du film, un rythme assez impressionnant. Là où un Guillaume Canet nous inflige 2 heures de comédie avec moult temps mort, Hugo Gélin réussit un film long mais qui ne faiblit jamais. Mon Inconnu est donc ce que l'on appelle une comédie du remariage et qui pousse le concept à son paroxysme en faisant s'interroger le héros sur ses choix de vie. Il y a là une réflexion sur le couple, sur l'éternel dilemme, l'amour vaut-il tous les sacrifices, y compris celui de ses propres passions, sur les choix de vie que l'on fait et sur les conséquences qu'ils peuvent avoir. Et grâce à cela, eh bien, ce film qui est en apparence plutôt léger se double d'une belle profondeur et d'une véritable émotion, dépourvue de toute niaiserie, qui rappelle même, j'ose la comparaison, La La Land. Voilà. Ouh. Non, vraiment, je le conseille. Enfin, non, évidemment, sans le côté comédie musicale, bien sûr, rien à voir. Non, vraiment, je le conseille. On passe vraiment un bon moment. Je pense que c'est un exemple de comédie romantique réussie française. Mmh. Et Dieu sait que je ne suis pas cliente.
Je ne me souviens pas du nom.
Cinérama.
Si vous voulez appeler ça comme ça.
C'était une chronique sur Mon Inconnu sortie des archives de Cinérama, car ce film est diffusé en clair sur Canal+ jusqu'au 31 mars. Alors, on referme cette page décryptage en période de confinement pour entrer dans une ambiance de huis clos avec Manu, qui est confiné chez lui, mais qui est en liaison par Skype. Alors Manu, tu nous parles de 2 DVD, Demon et Bloody Bird, 2 films italiens.
Bah alors, en temps de confinement, j'ai pensé à ce qui arriverait si la menace était intérieure, et ce qui arriverait aussi si on ne pouvait pas sortir d'un endroit, en fait. Donc, j'ai pensé à des films de huis clos. Et là, je vais parler uniquement de purs films bis, et d'ailleurs italiens, de surcroît. Et donc, je commence par Démon. Alors, en Démon, plusieurs personnes sont conviées à la projection d'un film dans un cinéma dont ils ne connaissent nullement l'existence. À l'entrée se trouvent des accessoires de cinéma, ainsi qu'un étrange masque. Une jeune femme essaye le masque et s'égratigne la peau. Le film d'horreur commence et l'on retrouve le même masque qui transforme par simple éraflure les personnages en zombies. Alors dans la salle, les spectateurs vont subir le même sort et manque de bol, impossible de sortir de ce lieu. Le carnage peut commencer. Alors artisan modeste mais essentiel du cinéma bis transalpin des années 80, Lamberto Alva, en digne héritier de son père Mario, a réalisé quelques séries B épatantes comme en témoigne l'excellent Baiser macabre ou le très efficace film d'action Blast Factor. En 85, il s'associe donc avec Dario Argento dans l'espoir de frapper un grand coup dans le giron du cinéma d'horreur, alors en pleine déliquescence tant sur le plan artistique que commercial. La production italienne traverse alors une sérieuse crise dont elle ne se relèvera malheureusement pas. Alors coécrit entre autres avec Dardano Sacchetti, un scénariste un peu incontournable du cinéma d'exploitation italien, un Démon connu une gestation difficile, mais le succès en salle alors étrangement, fut au rendez-vous, notamment pour un film comme ça à petit budget. Alors 35 ans plus tard, hein, puisque le film date de 85 et est sorti en France en 1986, si l'enrobage visuel et sonore peut sembler daté, il y a notamment des morceaux de hard rock, hein, Démon tient la route et demeure un cocktail jouissif ou en couleur de transformation, de geyser d'hémoglobine, de sang verdâtre bien dégueulasse, d'éventration et de démembrement en tout genre sur fond de hard FM d'un goût douteux. Alors, mais le clou du spectacle reste notamment une séquence hallucinante où un démon sort d'un des protagonistes par le dos dans un déluge de sang et de tripailles à l'air. À ce titre, d'ailleurs, les maquillages et effets spéciaux de Sergio Stivaletti, hein, malgré l'étroitesse relative du budget, hein, sinon on n'est pas dans des grosses productions, possèdent encore aujourd'hui une puissance incroyable, jamais très loin de l'esthétique des comic books, impression confirmée par tout l'aspect graphique de l'épopée grandignolaise du père Lamberto, visiblement très à l'aise dans ce type de délire déviant et décomplexé. Alors vous l'aurez compris, hein, on n'est pas là pour triturer les ménages, hein, on reste vraiment dans un cinéma de pure exploitation, de série B, de délire. Lamberto Bava n'est ni, alors ce n'est pas un grand cinéaste comme peut l'être George Romero ou Lucio Fulci, hein, toute la dimension sociale du premier, hein, et notamment sur un film comme Zombie, et puis plus morbide et putréfide de Lucio Fulci, est évacué pour laisser place, on va dire, à un grand show son et lumière, un joyeux huis clos, parce qu'on est vraiment dans un huis clos sanglant qui baigne dans un climat festif et iconoclaste, hein. Alors superficiel et léger, ce qui n'est pas forcément un défaut, hein. Démon ne brille pas par sa complexité ni son originalité, il y a même des emprunts un peu grossiers, notamment à la Rose pour producteur de Woody Allen et Evil Dead, mais par sa vitalité et sa générosité débordante, son statut de film culte ne semble pas usurpé aujourd'hui.
Encore un film italien, mais on quitte la salle de cinéma pour le théâtre avec Bloody Bird.
Irwin Wallace, un psychopathe dangereux, s'échappe d'un asile psychiatrique et se réfugie dans un théâtre, lieu où une troupe répète une comédie musicale. Et donc, le carnage peut donc commencer. Bloody Bird apparaît au milieu des années 80, en pleine déliquescence du cinéma de genre italien, comme une bouffée d'air frais. Premier long métrage d'un jeune réalisateur, Michele Soavi, assistant d'ailleurs de Dario Argento. Bloody Bird est un giallo un peu particulier. Soavi s'empare des codes esthétiques les plus significatifs de son maniérisme le plus outré pour livrer une œuvre terrifiante qui tient davantage du slasher postmoderne que du giallo pur et dur. La trame narrative ténue ne laisse planer aucun doute quant à l'identité du tueur, hein, psychopathe échappé d'un asile. L'unité de lieu et de temps permet surtout à Soavi de tisser un suspense implacable dans ce huis clos baroque. L'intrigue très simple, hein, l'ossature très, très mince, s'aventure du côté des péripéties saignantes orchestrées par Jason Voorhees de Vendredi 13 ou Michael Myers du film de Carpenter Halloween. À l'instar de ses modèles américains, l'assassin s'empare d'un masque, là de hibou, et décime à un toute une troupe de théâtre venue répéter une comédie musicale. Conscient de ses limites, hein, d'un tel postulat, Michele Soavi joue la carte du minimalisme et ne tente pas de donner une épaisseur au personnage. Hein. Pas de trauma initial, de révélations stupéfiantes, justifiant des motivations du personnage. Irwin Wallace, c'est un monstre en fait, hein, c'est un pur monstre. Soavi lui ôte toute dimension humaine, ce que l'accoutrement insolite surligne explicitement. Du coup, le film tend vers l'abstraction et s'érige en réflexion et modèle sur les mécanismes de la peur au cinéma. Alors, Bloody Bird souffre par une mise en abyme intéressante, une scène en trompe-l'œil rejoint pour le plaisir les motifs visuels du giallo. Les personnages sont outrageusement maquillés, la musique verrouquiche, les décors ont du mal à simuler l'origine du studio. Il s'agit pour Soavi de prendre des distances vis-à-vis d'un genre codifié. Il transcende donc le scénario par une mise en scène inspirée. Véritable démiurge de l'horreur, Soavi mène sa petite troupe de pantins par le bout du nez, avalée par un décor baroque aux réminiscences expressionnistes. Alors, la gestion précise de l'espace et du temps, magnifiée par un sens du découpage et des lumières bleues et rouges, impose Bloody Bird comme un digne successeur, en plus mal élevé, on va dire, de Six femmes pour l'assassin de Bava. Corps découpé en deux par une tronçonneuse, hache en pleine tête, gorge tranchée, enfin tout ça. Mais cette avalanche d'hémoglobine n'a rien de malsain. Soavi esthétise cette violence, la poétise et l'intègre dans la dimension plastique de l'ensemble, transformant du coup un banal slasher en véritable opéra de la violence, bardé de références picturales et théâtrales. Voilà, un grand film, d'ailleurs disponible en DVD encore chez Neo Publishing et qui est aussi en Blu-ray import, et on peut le trouver. Voilà.
Merci Manu, et à la semaine prochaine.
C'est fini ?
Eh bien,
Oui, je crois que oui. Oh,
c'est pas possible.
Ah, si, je vous assure.
Non, vous n'avez pas perdu de temps, c'est très bien.
Foutez ma gueule !
Ainsi s'achève Cinérama, deuxième émission en période de confinement. On vous souhaite de regarder un maximum de films. On espère toujours être de bons conseils et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine.
This is Cinérama.